RCF.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCF pour la chronique Europe de la Maison de l'Europe, Centre Europe Direct Limousin. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Suède. En effet, c'est elle qui, le 1er janvier 2023, a succédé à la République tchèque pour endosser le rôle de la présidence du Conseil de l'Union européenne. Pour rappel, ce statut dure 6 mois et consiste à poursuivre les travaux du trio que la Suède forme avec la République tchèque et la France. Pour en savoir plus sur les priorités qu'elle a établies et afin de nous permettre de mieux cerner le contexte de sa présidence, nous accueillons aujourd'hui Guy Royer, bénévole à la Maison de l'Europe en Limousin, qui animera un Café de l'Europe sur la Suède le 5 avril à la BFM de Limoges. Bonjour Guy, merci d'être avec nous.
Bonjour, bonjour à tous.
Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter la Suède en quelques mots ?
Oui, un petit peu de géographie, ça fait toujours pas de mal. Donc, la Suède, c'est le 3e plus grand pays d'Europe, après la France et l'Espagne, 447 424 km² précisément. C'est un pays qui est très allongé du nord au sud, sur 1600 km, et qui est couvert en grande partie de forêts. Plus de la moitié de la superficie du pays est couverte de forêts. Le nombre d'habitants, 10,5 millions d'habitants, et à des latitudes qui sont extrêmement, une latitude très septentrionale. C'est, on peut dire, le nord de la terre habitée, avec deux conséquences, la longue nuit de l'hiver et la courte beauté de l'été. Stockholm, la capitale, est à la latitude d'Anchorage, en Alaska. C'est donc un pays vraiment très nordique.
Il y a un modèle assez spécifique qui est le modèle suédois. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, la Suède est en effet considérée comme un modèle. L'héritage d'une superstructure culturelle, administrative à l'époque, c'est-à-dire au XVIIe siècle, où la Suède était une grande puissance européenne, est à la base, est aux racines de la réussite du pays. Dans les années 1930, la social-démocratie suédoise aurait inventé l'État-providence et créé un modèle social parmi les plus favorables au monde. Alors quelles sont les composantes de ce modèle ? Il y en a 4. Négociation entre le patronat et les syndicats, intervention de l'État dans la vie économique, construction d'un grand service public et indemnisation dans toutes les assurances sociales avec des allocations qui sont proportionnelles aux revenus du travail perçus par l'individu. Donc démocratie, intégration, équité sociale qui sont au cœur du système, un système qui atteint son apogée dans les années 1960. Et l'intégration sociale et l'intégration territoriale sont liées. En effet, une politique régionale de transfert permet d'égaliser les niveaux de vie. Les services publics sont développés partout. L'intégration par les infrastructures joue en effet un rôle essentiel. Par exemple, le développement du chemin de fer a permis de resserrer, entre guillemets, un territoire allongé du nord au sud. L'intégration passe aussi par la formation, la culture, la tradition de la vie associative qui sont présentes partout. Mais la crise économique des années 1990 favorise le néolibéralisme et une critique agressive de l'État social, avec un contexte de sentiment accru de précarité dans des groupes importants de la population. L'État se désengage des domaines de la santé et des écoles. L'extrême droite accuse les sociaux-démocrates d'avoir trahi le peuple suédois en détruisant le modèle social et en favorisant le multiculturalisme qui privilégierait les nouveaux arrivants, réfugiés de l'ex-Yougoslavie, du Kurdistan et de Somalie. La droite populiste reprend alors le concept de foyer du peuple comme modèle social universel et juste, respectueux des droits et des besoins des citoyens.
Donc ce modèle, il a été réadapté. D'un point de vue politique, la Suède est aujourd'hui une monarchie parlementaire.
Oui, la Suède est un pays qui a été un pays ancien, qui a été fondé par les Vikings à partir de 1800 et qui a connu son apogée sous le règne de Gustave II Adolphe au début du XVIIe siècle. Et le régime politique est resté une monarchie parlementaire, avec à sa tête le roi Charles VI Gustave. Il y a un parlement avec une chambre unique, le Riksdag. Ce parlement, c'est une assemblée de 349 députés élus pour 4 ans. Le premier ministre actuel, Monsieur Christensen, leader du parti de centre-droit des modérés, a été élu le 17 octobre 2022 par le Parlement. Il dirige un gouvernement composé de ministres issus d'une coalition de 3 partis, modérés, conservateurs et libéraux. Mais il s'appuie sur le parti d'extrême droite, démocrate de Suède, qui, sans participer au gouvernement, impose sa politique migratoire. Par exemple, des quotas de 900 réfugiés par an, un revenu minimum nécessaire pour obtenir un permis de travail. Alors l'Union européenne s'inquiète des racines nazies de l'extrême droite suédoise. Héritier d'un groupe néo-nazi fondé en 1988, le Parti des démocrates suédois s'est imposé dans le paysage politique du pays en entrant au Parlement en 2010 avec 5,7% des voix et en progressant ensuite à chaque élection pour arriver à 20% à peu près des voix actuellement.
Donc cette présidence de l'Union européenne de la Suède inquiète un peu l'Union européenne, notamment comme vous l'avez dit par rapport à la montée du nazisme. Mais comme j'ai dit au début de la chronique, la Suède préside l'Union européenne, donc au niveau du Conseil de l'Union européenne. Quelles sont ses priorités ?
Oui, en effet, la Suède a pris au premier semestre 2023 la présidence du Conseil de l'Union européenne pour la troisième fois depuis son adhésion en 1995. En Europe, cette présidence est accueillie sans enthousiasme. L'inquiétude, en effet, que le leader d'extrême droite, Jimmy Åkesson, dirige la ligne suédoise pendant la présidence, cette inquiétude est-elle fondée ? Alors, le programme suédois reprend celui du trio que le pays forme avec la France et la République tchèque depuis janvier 2022. Sur ces bases, la Suède affiche quatre priorités sans faire de grandes annonces. Parmi ces priorités, la défense des valeurs démocratiques et de l'état de droit qui doit rassurer les partenaires européens. Mais l'UE a besoin d'un système de migration et d'asile efficace. La Suède veut faire avancer les négociations relatives au pacte sur la migration et l'asile, encourager le retour au pays des migrants en coopération avec les pays tiers. Deuxième aspect, la compétitivité économique, qui est mise au premier plan, car la force de l'UE dépend de sa production liée au marché unique et au commerce mondial. Ensuite, l'UE doit rester le chef de file de la transition écologique, doit montrer l'exemple avec des objectifs climatiques ambitieux. La Suède propose une réforme à long terme du marché de l'énergie, le développement des investissements dans les industries innovantes et la mise en œuvre de l'initiative d'ajustement à l'objectif de 55%. Et enfin, quatrième objectif, la sécurité de l'UE, qui nécessite la poursuite de l'aide économique et militaire à l'Ukraine, son soutien au statut de pays candidat à l'Union européenne. La Suède souhaite en effet favoriser un consensus en faveur d'une politique européenne de défense et de sécurité.
Et cette présidence permet de mettre en lumière les relations de la Suède avec l'extérieur, ce qui nous amène notamment à sa potentielle adhésion à l'OTAN.
Oui, alors sur le plan extérieur, le contexte international a aussi fait évoluer le modèle suédois. Neutre depuis les guerres napoléoniennes, ayant adopté le complexe plus flexible de non-alignement avec la guerre froide, la Suède se rapproche de l'OTAN en 2014. Mais l'annexion de la Crimée et l'invasion russe de l'Ukraine inquiètent Stockholm. En effet, récemment, la Suède mobilise les civils, renforce sa défense civile, planifiée à tous les niveaux de la société. Et la mer Baltique est une zone en alerte géopolitique. En effet, la Russie dispose d'un double accès sur cette mer, à Saint-Pétersbourg et à Kaliningrad, principale base russe sur la Baltique, après la perte des pays baltes. Depuis 2014, les violations par la Russie des espaces aériens et maritimes se sont multipliées. L'île de Gotland, au rôle stratégique, a été remilitarisée par la Suède. En mai 2022, après l'attaque russe de l'Ukraine, la Suède a remis sa lettre officielle de demande d'adhésion à l'OTAN. Le 5 juillet 2022, les Alliés ont signé le protocole d'accession de la Suède, devenu un pays invité, autorisé à assister aux réunions de l'OTAN. Mais l'adhésion de la Suède se heurte pour l'instant au blocage imposé par la Turquie, par Ankara. Or, l'unanimité des membres est nécessaire pour valider l'entrée d'un nouvel État au sein de l'organisation. La Turquie réclame l'extradition de ressortissants kurdes membres du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, des ressortissants kurdes qui sont réfugiés en Suède, et ces ressortissants sont accusés de terrorisme. Début décembre 2022, la Suède a expulsé M. Mahmut Tat, condamné en Turquie à 6 ans et 10 mois de prison. Un geste qui a été jugé insuffisant par la Turquie. Après l'autodafé du Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm le 21 janvier 2023, le président turc Erdogan maintient son veto tant que la Suède autoriserait que le Coran, que le livre saint des musulmans soit brûlé et déchiré. Début mars 2023, dernière nouvelle, la Turquie serait prête à reprendre les négociations. Mais pour le moment, on en est toujours là. Et par ailleurs, la Hongrie, soucieuse de ménager la Russie, a repoussé au début mars 2023 l'examen de la demande d'adhésion suédoise par son Parlement. Alors on voit que la mise à l'épreuve de la mondialisation des pratiques néolibérales, ce modèle suédois n'en est plus vraiment un. Et par rapport à l'Europe, s'il s'oppose à plus d'intégration, les Suédois restent majoritairement favorables à l'Union européenne, qui est pourtant souvent absente de leur débat national.
Eh bien, je vous remercie Guy pour le temps que vous nous avez accordé. Et je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés. Et si vous voulez approfondir vos connaissances sur la Suède, on vous donne rendez-vous le 5 avril à la BFM de Limoges pour un café de l'Europe dédié à ce sujet. Je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique où nous partirons en Serbie pour rencontrer deux volontaires français en Corps européen de solidarité. À bientôt.